Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La RDC et le Rwanda doivent signer aujourd'hui un accord de paix à Washington sous médiation américaine. Ce document vise à faire progresser le processus de paix dans l'Est de la RDC en proie à une grave crise humanitaire. En sport, les derniers matchs de la Ligue nationale de football se jouent ce vendredi à Lubumbashi et à Kinshasa. Il s'agit dans ces rencontres de déterminer les équipes qui vont représenter la RDC en compétition africaine interclub à la saison sportive prochaine. Et puis, les écoles ont fonctionné difficilement cette année scolaire dans les zones affectées par la guerre. Malgré les efforts des enseignants à sauver l'année, la matière n'a pas été dispensée comme il se doit, affirme la direction provinciale de l'éducation nationale Nord Kivu 1. Le conseiller de cette division, Théo Tiraba, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. C'est en principe aujourd'hui, vendredi 27 juin, que la RDC et le Rwanda signent un accord de paix sous médiation américaine à Washington. Ce document vise à faire progresser le processus de paix dans l'est de la RDC, où depuis 3 ans, des violents combats opposent les FARDC à l'AFC M23, soutenu par le Rwanda. Situation à l'origine d'une grave crise humanitaire. De détails avec Martial Papimukeba.
Ces documents nommés accords devraient être validés et signés par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Le texte avait été paraphé le 18 juin 2025 à Washington par les experts congolais et rwandais et comprend 5 dispositions principales. Le respect de l'intégrité territoriale, la cessation des hostilités, les désengagements, les désarmements et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques et la création des cadres d'intégration économique régionale dans lesquels Kinshasa et Kigali s'accordent à lancer ou à renforcer leur coopération. Il prévoit également la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire incluant les concepts des opérations CONOPS, un cadre d'échange des renseignements négocié à Luanda en octobre 2024. Si la signature de l'accord intervient comme prévu ce vendredi, Félix Tshisekedi et Paul Kagame devraient se rencontrer lors d'un sommet à Washington à la mi-juillet en présence de Donald Trump et d'autres chefs d'État africains appelés à se porter témoins ou garants de l'accord. Béni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
La signature de cet accord est confirmée par la porte-parole du président Tshisekedi. Dans un tweet, Tina Salama indique que selon le programme du département d'État américain, la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aura bel et bien lieu ce vendredi 27 juin autour de 13h30 local à Washington, soit 18h30 à Kinshasa. Ça sera en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, de la ministre d'État aux Affaires étrangères de la RDC et de son homologue du Rwanda. En ce qui concerne l'accord à signer, il est le même qui a été paraphé par les délégués des deux parties il y a une semaine, précise la même source. Entre-temps, le ministre d'État par intérim de la Justice salue ce vendredi la décision de juger l'affaire qui oppose la RDC au Rwanda à Arusha, en Tanzanie. Samuel Mbemba attribue cette victoire judiciaire au leadership éclairé du président Félix-Antoine Tshisekedi et sa vision matérialisée par la première ministre Judith Suminwa. Plus de détails avec vous, Blaise Ndongala Mayanda.
Pour le ministre d'État ad intérim de la Justice, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise et celle du Rwanda en République démocratique du Congo. À partir de maintenant, estimant Samuel Mbemba, le régime de Kigali dispose de 90 jours pour soumettre à la Cour ses observations sur les fonds. Et lorsque cela sera fait, note ses membres du gouvernement, la RDC aura 45 jours pour envoyer sa réplique avant la décision qui interviendra quant au fond. C'est au mois de février dernier qu'il y a eu l'ouverture de ce procès et que les deux parties avaient plaidé leur cause. Dans ce procès, Kinshasa accuse Kigali de diverses exactions sur la population civile de la partie est du pays.
Par ailleurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est déclarée hier compétente de juger le Rwanda dans le litige qui l'oppose à la RDC. En réaction, la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, dit accueillir avec satisfaction cette décision qu'elle considère comme étant une victoire importante pour la justice internationale. Mais quel est l'impact d'une telle décision sur la suite des événements? Le président de la CNDH, Paul Nsapu, explique au micro de Jeff Ngoy.
Je pense que les velléités, les envies des autorités rwandaises seront revues à la baisse et le peuple rwandais pourra comprendre que les agissements de leurs autorités, leurs dirigeants, à aller agresser un pays voisin, commettre des massacres, commettre d'autres génocides, ces velléités sont à condamner. C'est ça l'impact, parce que le peuple rwandais va savoir ce qui s'est passé réellement. L'impact, c'est au niveau aussi de peuples africains à travers le pays de notre continent et cela va certainement aller jusqu'au niveau des autres continents et donc c'est à craindre que si les autorités rwandaises continuent sur la même lancée à agresser la RDC, le Rwanda sera davantage indexé et le monde risque de se refermer une fois de plus sur ce pays en l'écartant du jeu de la sphère des diplomaties internationales.
Rendons-nous à la province du Maniema. Les députés provinciaux ont présenté leur rapport des vacances parlementaires hier à Kindu. Il ressort de ces rapports que dans plusieurs territoires et même au chef-lieu de la province, la population n'a pas accès aux soins de santé de qualité ni à l'eau potable et le pouvoir d'achat est faible à cause du mauvais état des routes et la situation sécuritaire s'est dégradée à cause du phénomène Wazalendo. Compte rendu de Florence Kizalunga.
Selon le président de la commission spéciale et temporaire chargée de l'élaboration des rapports de vacances parlementaires, ces problèmes qui touchent la population se retransformés en recommandations au gouvernement provincial. Néhémi Kangankolo.
Dans ces rapports, il a été relevé que dans beaucoup de territoires, il y a problème d'accès aux soins de santé de qualité. Et il y a aussi les problèmes d'accès à l'eau potable. Il y a aussi les problèmes des infrastructures routières. Alors tout ça, nous les avons présentés devant la plénière et seront transformés en recommandations au gouvernement provincial pour l'exécution, pour l'intérêt de notre population. Parce que après avoir récolté toutes ces données au niveau de la base est en train d'entendre maintenant les retours de la solution aux problèmes dans nos bases respectives. C'est maintenant le bureau de l'Assemblée provinciale qui va rester en permanence pour faire le suivi.
Signalons que cette plénière a été la première à être présidée par le nouveau speaker de l'Assemblée provinciale du Maniema. Dr Kibungi Mutanga Junior félicite tous les députés pour le travail abattu. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Je vous le disais en titre, les derniers matchs de la Ligue nationale de football se jouent ce vendredi sur deux sites, à Lubumbashi et à Kinshasa. Ces rencontres au capital vont déterminer les équipes qui vont représenter la RDC en compétitions africaines interclubs à la saison sportive prochaine. Cependant, la cérémonie de remise des trophées initialement prévue aujourd'hui est reportée à une date ultérieure. Jean Gandou nous brosse ici l'enjeu des matchs qui marquent la fin de ce championnat national Illico Cash Ligue 1.
À Lubumbashi, le tout-puissant Mazembe, quatrième au classement partiel, joue contre le FC Les Aigles du Congo. Ces derniers occupent la première position au même classement. Si les Aigles du Congo peuvent se contenter d'un match nul ou au pire des cas, d'une défaite, cela ne changerait rien de leur présence en compétition africaine interclub. Cependant, ils pourraient perdre la chance de soulever la coupe. Les Corbeaux sont obligés de gagner. Un tout autre résultat va compromettre leur chance de qualification en attendant la suite de leur recours. Un autre match à grand enjeu est celui qui va opposer Maniema Union au Cheminot de Saint-Éloi-Loupopo. Les cheminots qui rêvent d'un sacre sont plus qu'obligés de sortir un grand jeu pour venir à bout des unionistes de Maniema. Un match nul les empêchera de monter sur la plus haute marche du podium. Là aussi, les cheminots devront compter sur la victoire de Mazembe sur les Aigles. Mazembe croise aussi le doigt et compte sur la défaite de Maniema Union face à Loupopo. Les deux géants de Lubumbashi n'ont jamais été si proches qu'en ce jour, en dépit de leur divergence légendaire. Comme on le voit, les équipes du site de Kinshasa comptent aussi l'une sur l'autre pour d'une part soulever la coupe pour les Aigles du Congo et rejouer la coupe d'Afrique pour Maniema Union en cas de belles prestations en ces derniers jours du championnat.
Direction l'Ituri, une nouvelle attaque de la milice Codeco a été enregistrée ce vendredi matin au site de Djangui dans le territoire de Djougou. Le bilan provisoire fait état de 9 morts et une dizaine de blessés, dont au moins 7 dans un état critique. Selon des sources concordantes, ce bilan est encore provisoire en attendant les fouilles pour retrouver d'autres victimes. Les casques bleus de la MONUSCO ont aussitôt répliqué à l'assaut de ce groupe armé qui a été mis en déroute, ce qui a permis de minimiser les dégâts, déclare la société civile locale. Le récit de Isaac Remoyope.
La présence d'un groupe de miliciens de la Codeco était signalée depuis environ 10 jours dans la zone, rapporte la société civile locale. Ce vendredi matin, les déplacés du site de Djangui, proche de la paroisse catholique de Drodro, ont été surpris vers 5 heures par des tirs nourris de ces hommes armés. Pris de panique, les gens couraient dans toutes les directions pour se sauver. Les forces de la MONUSCO installées non loin du site sont immédiatement intervenues en tirant plusieurs coups de feu pour repousser l'ennemi qui a pris fuite. Les dégâts humains de cette énième attaque dans le site des déplacés sont énormes. La société civile locale avance un bilan provisoire de 9 morts, dont la plupart sont des enfants et des femmes, et 12 blessés. Dans la confusion née de cette attaque, la plupart des déplacés ont trouvé refuge devant la base militaire de la MONUSCO à Drodro et d'autres à la paroisse catholique du village. Les personnes blessées ont été acheminées d'urgence à la base de la MONUSCO pour les premiers soins, avant d'être ensuite acheminées à l'hôpital de Drodro par la force onusienne. Les casques bleus ont également renforcé les patrouilles pour garantir la protection des civils. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi ce nouveau naufrage survenu dans la province de l'Équateur. Hier jeudi, la baleinière HB Ville de Mbandaka a chaviré dans le fleuve Congo au niveau de Nganda-Kinshasa. Selon le panel des experts de la société civile de l'Équateur, une centaine de personnes sont portées disparues dans ce naufrage. C'est le 4e naufrage depuis janvier 2025 pour un total de plus de 500 morts documentés par le panel des experts de la société civile de l'Équateur. Au Nord Kivu, des magistrats, des inspecteurs de la police judiciaire et agents des services de sécurité de Beni ont clôturé hier une formation de 11 jours consacrée à la lutte contre le financement du terrorisme. Organisée par la section d'appui à la justice de la MONUSCO Beni, cette session visait à renforcer les capacités des participants à enquêter et poursuivre efficacement les circuits de financement liés au terrorisme. Le magistrat et auditeur militaire intérimaire de garnison de Beni, le capitaine Hubert Kabandani, souligne l'importance de cette formation dans un contexte marqué par l'activisme des EDF affiliés au groupe terroriste État islamique. Le capitaine Hubert Kabandani explique au micro de Martial Papi Mukeba.
Cette formation vient apporter un plus sur ce que nous avons toujours fait ici à Beni. Vous savez que Beni, c'est une région qui est secouée par l'activisme des EDF, un mouvement terroriste qui se donne au massacre de la paisible population de Beni, et que dans le fonctionnement de ce mouvement, il y a le ravitaillement des insurgés par des produits en première nécessité. Et entre autres, on parle de financement de ces terroristes. Ces individus reçoivent de l'argent qui vient de l'étranger. Cet argent leur permet d'acheter les armes, de recruter les membres, que cet argent est utilisé pour accomplir leur sale business. Raison pour laquelle aujourd'hui, avec cette formation, nous sommes à même de retracer cette chaîne de financement et savoir d'où vient l'argent, qui finance et comment est-ce qu'on peut intercepter cet argent pour mettre fin à ces fléaux que nous appelons ADEFNA.
Cette série de formations qui concerne 30 acteurs judiciaires de Beni, Bunia et Kinshasa se poursuivra dans la capitale congolaise avec une session finale dédiée à la formation des formateurs. Elle est assurée par 2 experts de la MONUSCO spécialisés en analyse criminelle et en investigation numérique.
Actualité internationale.
Le secrétaire général des Nations Unies met en garde contre le nombre élevé des conflits armés dans le monde. Antonio Guterres appelle les États membres à rester engagés dans leur responsabilité de protection contre la violence. Appel lancé mercredi lors de la 80e séance plénière de l'Assemblée générale de l'ONU. Nous assistons au nombre le plus élevé des conflits armés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, a déclaré Antonio Guterres lors d'un discours prononcé devant l'Assemblée générale à l'occasion du 20e anniversaire de la responsabilité de protéger de l'ONU. 20 ans plus tard, la responsabilité de protéger reste une nécessité urgente, un impératif moral et une promesse non tenue, a déclaré Antonio Guterres.
L'invité.
L'année scolaire qui s'achève a connu des perturbations sérieuses dans les zones affectées par la guerre, d'abord à cause de la grève des enseignants à l'ouverture, puis par l'occupation rebelle de plusieurs entités de deux Kivu. Un responsable d'école affirme que les enseignants ont fourni un effort juste pour sauver l'année, mais la matière n'a pas été dispensée comme il se doit et les écoles ont fonctionné difficilement. Théo Tiraba, notre invité, est directeur au collège professeur Midagou à Goma et conseiller à la direction provinciale de l'éducation Nord Kivu 1. Il s'entretient avec Sifa Maguru. Monsieur Théo Tiraba, bonjour.
Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Quelle est votre impression en rapport avec les déroulements de cette année scolaire 2024-2025 qui s'achève?
Vous savez très bien que la province du Nord Kivu a connu beaucoup de perturbations dans presque tous les domaines, et particulièrement dans le domaine de l'éducation. L'année scolaire qui devait commencer en septembre, vous savez, les enseignants du secteur public avaient boycotté le mouvement de grève. Cela a pris plus de 51 jours où les enfants étaient abandonnés, pas d'activité, sauf dans les écoles privées où les enseignants et les élèves étudiaient. À la suite de cela, vous savez, la guerre que nous avons connue ici à l'Est, ici au Nord Kivu, qui a perturbé aussi les activités scolaires. Pour votre information, jusqu'à maintenant, en province éducationnelle Nord Kivu, les activités continuent jusqu'à maintenant. Et les écoles publiques, les écoles privées, toutes les écoles fonctionnent jusqu'à maintenant. Et nous sommes déjà vers la fin de l'année scolaire, malgré les défis, les difficultés.
Est-ce que ces facteurs que vous évoquez ont entraîné des conséquences sur l'éducation des enfants?
Cela engendre plusieurs conséquences au niveau des résultats des élèves. D'ailleurs, en février, lorsque les élèves sont revenus dans les écoles, c'est presque partout où on constatait déjà des régressions sur les plans intellectuels des enfants. Et cela causé par l'état émotionnel, état psychologique. Bien même les autres pourront peut-être réussir, mais on constate toujours des régressions sur les plans réussite et performance des élèves dans des écoles. Vous savez qu'avec tout cela, les élèves, surtout dans les secteurs publics, n'ont pas vraiment reçu tout ce qu'il fallait pour cette année scolaire. N'ont pas pu vraiment terminer toutes les matières prévues, parce que récupérer tous ces jours perdus pendant la grève des enseignants et les autres jours ajoutés pendant l'état de psychose, de la guerre, des affrontements dans la ville et les environs, ça crée vraiment des problèmes pour qu'on dise qu'on a complètement terminé le programme national d'enseignement à tous les niveaux.
Alors, en un mot, comment évaluez-vous cette année scolaire?
Mon impression est que vraiment cette année, on n'a fait que seulement sauver l'année, surtout pour le secteur public. Hein? Beaucoup d'enfants vraiment en difficulté, les enseignants eux-mêmes en difficulté. Vous savez tout ce que les enseignants ont connu aussi avec la fermeture de banques. Il y a des enseignants même dans des territoires, même à Sissi, à Likale, à Rutshuru, qui ont encore des difficultés d'accéder à leur salaire. Si le gouvernement libère les fonds, les salaires, mais comment accéder au temps opportun à son salaire pendant que les banques ne fonctionnent pas, mais aussi au niveau des écoles, des établissements scolaires à tous les niveaux ont eu des difficultés énormes pour accéder aux frais de fonctionnement de leurs établissements scolaires. Vous voyez que on enseigne, mais vraiment on n'arrive pas à répondre à tous les besoins de l'éducation. Et les conséquences doivent toujours être énormes sur tous les plans, et cela ne garantit pas vraiment la formation de qualité pour cette année scolaire 2024-2025.
Que faut-il faire pour récupérer ce gap l'année scolaire prochaine?
Je recommande aux autorités tant nationales que provinciales et aussi aux partenaires de l'éducation de vraiment travailler sur la réhabilitation des écoles touchées pendant les affrontements. Le gouvernement devait mettre un paquet suffisant afin de préparer bien l'année scolaire 2025-2026, mais aussi disponibiliser l'enveloppe salariale des enseignants, surtout les secteurs publics, rassurant la qualité, la bonne qualité d'enseignement. Merci beaucoup.
Voilà, c'était là notre invité, Théo Tshiraba, directeur au collège professeur Midagou à Goma et conseiller à la direction provinciale de l'éducation Nord Kivu 1. Il répondait aux questions de Sifa Maguru. Par ici, prend fin à ce journal coordonné par Jude Mister Bilanda et Jean Gandou à la mise en onde Alain Goy. Merci d'avoir été des nôtres.